Chapitre 13. Violette. La pluie se calma le matin suivant et tous purent sortir du château. Alors, bien sûr, ce fut ainsi que Wiley reçut une balle. Il tentait d'échapper à un groupe de voleurs. Ils étaient 12. Les 7 enfants, Jenny et 4 autres adultes. Ils étaient partis le long du mall en suivant Jefferson vers l'ouest pour atteindre le bord de la zone inondée, juste après le Washington Monument. La reflecting pool avait disparu sous les eaux de crues boueuses et le fleuve clapotait sur les marches du Lincoln Memorial. Ils étaient alors retournés à Constitution Gardens, le sol détrempé couinant sous leurs pieds. La dernière récolte avait été si bonne que Jenny tenait à voir l'endroit de ses propres yeux.
« Peut-être que si les choses se stabilisent un peu plus, on pourra y installer une ferme, » dit-elle. « Plus près, ce serait mieux, mais... »
Même si Violette n'entendit pas la suite, elle comprenait ce que la vieille femme voulait dire. Personne ne planterait quoi que ce soit sur le môle, devant le château. Ce n'était plus qu'un immense charnier. Le côté sud de l'étang était marécageux à cause des pluies diluviennes, et ils se dirigèrent donc vers le nord, le long de Constitution Avenue. La végétation avait repris ses droits ici. De là, une petite passerelle menait à une île qui avait tout d'une jungle miniature. Effrayé, un lapin bondit dans les broussailles. Jenny était au paradis. Elle voyait des plantes comestibles partout où elle regardait. Pas seulement des massettes et des pissenlits, mais tout un tas d'autres espèces que Violette pensait immangeables. De l'herbe à ail, des oxalides droites et des violettes, ce qui, d'une certaine manière, faisait la fierté de la jeune fille. Jenny envoya les enfants commencer la récolte, non sans ramasser des plantes elle aussi, tout en parlant des sources de nutrition auxquelles personne ne faisait attention et qui poussaient pourtant dans tous les jardins. Cette sortie en groupe avec des adultes était agréable. Violette aimait passer du temps rien qu'avec ses amis, mais elle savait qu'ils étaient plus en sécurité en compagnie des grandes personnes. La proximité de la Maison Blanche, où se trouvait la base principale de la JTF, aidait aussi. Elle imaginait le président, car il y en avait forcément un, non ? Travailler dur à remettre l'Amérique sur pied. Il y avait des soldats et des véhicules tout autour du terrain de la résidence présidentielle, de l'Ellipse au parc Lafayette. En être aussi proche l'aidait à se sentir protégé.
« Je me demande s'il y a des poissons dans cette mare, » fit Mike.
« Aucune idée, » répondit un adulte qui se tenait près de lui, les mains sur les hanches.
« Mais des grenouilles, c'est sûr. »
Violette n'était pas sûre de pouvoir manger une grenouille. Elle était en train de se demander après combien de jours de privation elle serait capable d'avaler un batracien, lorsque de nouveaux arrivants surgirent d'un petit bâtiment de l'autre côté de Constitution Avenue. Leurs vêtements étaient en loques et dépareillés, signe qu'ils n'appartenaient pas à un groupe organisé.
« Juste une bande de pillards et de voleurs, » se dit d'abord Violette.
Elle en avait déjà vu à Washington, qui en était infesté. Il faisait peur, mais pas plus qu'un nuage de particules jaunes dérivant vers l'enfant de Plaza ou que les éternels coups de feu nocturnes qui résonnaient à travers le môle. En plus, elle était accompagnée de tout un groupe, dont 5 adultes. Puis l'un d'eux sortit une arme et se mit à tirer. Violette savait quoi faire. Elle se jeta au sol et jeta un œil aux autres. Était-il en train de courir? Si oui, elle devait les suivre. À l'hôtel, Mike l'avait longuement répété aux enfants et elle savait que les règles n'avaient pas changé. Ses amis se couchèrent aussi et les adultes sortirent leurs armes pour répliquer. Son premier instinct fut de s'enfuir, de courir et de ne s'arrêter qu'une fois au château. Mais Wiley hurla et s'effondra juste au bord de la mare. Et ce fut finalement vers lui qu'elle se précipita en rampant. La douleur le faisait haleter et pleurer, et son t-shirt était taché de sang. Ils se blottirent l'un contre l'autre dans les massettes.
« Tout va bien, » lui affirma-t-elle automatiquement, sans savoir si c'était vrai.
« Ça fait mal !»
gémit Wiley en serrant les dents.
« Ils m'ont tiré dessus. Vie, je vais mourir !»«
Bien sûr que non !» tenta-t-elle de le rassurer.
Il se retourna en serrant sa blessure. Elle vit qu'il avait bien reçu une balle et une partie d'elle voulut détaler jusqu'à Alexandria pour se cacher à jamais dans sa vieille chambre avec ses posters et ses peluches afin d'y dormir jusqu'à ce qu'on vienne lui assurer que tout irait bien. Mais c'était impossible et les tirs reprirent. Autour d'elle, tout le monde était couché dans l'herbe près de la mare dans l'espoir de se cacher. Elle vit Mike faire feu, mais les voleurs ne s'arrêtaient pas. Elle glissa le long de la rive boueuse jusque dans l'eau, en tirant Wiley. Les enfants couraient tous vers l'autre côté de la petite île, à l'exception de Noah, qui s'était couché à côté de Violette en serrant la main de leur ami blessé. Ce dernier battait des pieds en geignant. Les balles déchiquetaient les massettes au-dessus d'eux. Mike avait disparu. Elle ne voyait plus aucun adulte. Rampant hors de l'eau pour avoir une meilleure vue, elle aperçut Mike à quatre pattes de leur côté de la passerelle. Il essayait de se relever, mais sa jambe se dérobait sous lui. Les voleurs étaient au niveau des arbres, entre Constitution Avenue et la rive nord de l'étang. Elle les voyait se déplacer. Quatre d'entre eux avancèrent en direction de l'adulte au sol. Où étaient les autres grandes personnes ? Violette s'efforçait de garder son sang-froid, mais elle ne savait pas quoi faire. Noah et Wiley étaient assez bien cachés. Malheureusement, il faisait trop froid pour rester dans l'eau. Et Wiley avait besoin d'un médecin. Ginny rampa à côté d'elle.
« Ne bouge pas !» lui intima-t-elle. « Mais Mike, on ne peut rien faire pour le moment !» répondit-elle, l'air sinistre. « Alors que dans une minute, on pourra peut-être sortir Wiley de là !»
Les quatre bandits furent rejoints par six autres hommes qui surgirent des bois derrière eux.
C'était pas une bonne idée de venir cueillir des fleurs ici, lança le meneur en s'engageant sur la passerelle, suivi par ses camarades.
Violette se demanda si elle allait mourir. Elle tremblait. Ginny lui passa une main dans le dos.
Là, ça va. Si ça dégénère, ferme les yeux.
Mike entendit les bandits arriver et s'éloigna en rampant vers le petit monument au centre de l'îlot. Les tirs s'étaient arrêtés. Ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. Derrière leurs agresseurs, elle repéra à nouveau du mouvement près des arbres.
« Encore d'autres !» pensa-t-elle.
Peut-être qu'elle pourrait nager jusqu'à la mare et s'enfuir. Où étaient ses amis ? Les idées s'enchaînaient dans sa tête, mais son corps refusait de bouger. Ginny, elle, ne la quittait pas. Violette vit que la vieille femme avait une arme, un petit pistolet noir. Toutefois, il ne leur serait pas d'une grande aide contre 10 voleurs ou même plus si leurs complices continuaient à affluer depuis les bois. Mais ce n'était pas le cas. Un grand homme blanc, équipé d'un sac à dos et d'un fusil, entra dans son champ de vision. Il leva son arme et regarda dans le viseur. À son poignet gauche, la jeune fille remarqua un cercle orange lumineux, ce qui lui donna une petite lueur d'espoir. Un agent de la division. Un seul. Mais pour elle, c'était de véritables super-héros. En plus, celui-ci était gaucher, comme elle. Aucun des bandits ne l'avait encore remarqué. Tous avaient les yeux rivés sur Mike, l'esprit occupé à imaginer le traitement qu'ils allaient lui infliger. L'agent fit feu, ajusta sa visée, puis recommença. Nouvel équilibrage, suivi d'un autre tir, le tout en 2 secondes. Puis il se mit à couvert derrière un arbre. Quand Violette se tourna de nouveau vers le gang, l'un de ses membres s'écroulait dans l'eau et 2 autres étaient déjà au sol sur le pont. Les voleurs encore en vie pivotèrent et brandirent leurs armes dans tous les sens en se criant dessus pour repérer d'où venaient les tirs. Leur chef désigna le petit bosquet. L'agent de la division réapparut, tira une fois, puis s'abrita à nouveau. Un autre homme tomba, sans se relever.
« Il pourra pas tous nous avoir avec une putain de carabine !» hurla le chef. « Chopez-le !»
La bande chargea. Ginny en profita pour bondir hors des massettes et se précipiter vers Mike afin de le traîner derrière les buissons où il serait moins exposé. Violette se tourna vers Noah.
« Comment il va ?»
Noah tenait la tête de son frère contre lui en pleurant.
« Il est blessé, Vi. Il arrête pas de saigner. »
Blanc comme un linge, Wiley ne s'agitait plus.
« Sors-le de l'eau. Attends, je vais t'aider. »
Violette courut vers eux, et avec Noah, ils traînèrent son jumeau sur la terre ferme. Wiley était trempé jusqu'à la taille. Au-dessus, son flanc droit était inondé de sang. Une rafale retentit près des arbres. Violette pivota et vit les voleurs tirer en direction de l'agent. Mais elle ignorait où il était.
« Ah si, là, attends, non !»
Il s'agissait d'une femme asiatique, agent elle aussi, qui les contournait calmement. Son fusil était différent de ceux dont les chargeurs étaient courbés. Elle tira une longue rafale qui balaya le groupe d'agresseurs. Ceux qui le pouvaient encore commencèrent à se disperser. Alors, le premier agent réapparut de l'autre côté des arbres et en abattit un autre. Des 10 voleurs, il n'en restait plus que 2 qui s'enfuirent vers Constitution Avenue. Les agents de la division ne les poursuivirent pas et convergèrent vers la passerelle qu'ils traversèrent ensemble.
« Vous pouvez sortir maintenant !»
lança l'homme. Ginny sortit de derrière les buissons et cria.
« On a besoin d'aide. On a 2 blessés. Enfin, au moins 2, je ne sais pas où sont les autres. »
La femme tapota l'écran de sa montre.
« Fujikawa à la base. Besoin d'une assistance médicale pour des civils sur ma position. ASAP. »
Elle marqua une pause pour écouter la réponse de son interlocuteur.
« Menace neutralisée, » reprit-elle. « La situation est stable pour l'instant. Pearson et moi restons ici en attendant votre arrivée sur site. »
Puis, en regardant Ginny.
« Les secours arrivent. »
L'autre agent avait récupéré Wiley et le ramené près du groupe. Il s'accroupit pour le poser doucement sur une allée. Noah était juste à côté.
« Aidez-le !»
supplia-t-il.
« Accroche-toi, petit !» encouragea leur sauveur, Pearson, donc.
« La JTF sera là d'un instant à l'autre. »
Fujikawa posa son sac et en sortit son kit de premier secours. Elle appliqua un pansement sur l'une des blessures de Mike. Il avait reçu 2 balles, au bras et à la jambe, laquelle semblait d'ailleurs en plus mauvais état.
« Ça va aller, » dit-elle. « Mais pas de footing pendant quelque temps.
» fit-il faiblement.
L'équipe d'intervention de la JTF arriva moins de 10 minutes plus tard, composée de 4 infirmiers et d'une dizaine de soldats. En les voyant approcher de la passerelle, Fujikawa tendit son poing à Pearson, qu'il frappa.
« On se voit plus tard !» lui lança-t-elle.
Ils partirent dans des directions opposées, lui au nord et elle à l'est. Arrivé à la hauteur des membres de l'escouade, Pearson leur adressa un signe de la tête et leur indiqua l'îlot. Violette suivit la silhouette de Fujikawa aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que l'agent disparaisse à travers les arbres qui poussaient autour du mémorial du Vietnam.
« Je parie qu'elle n'a jamais peur et qu'elle sait toujours quoi faire, » se dit-elle. « Je veux devenir comme elle. »
Tandis que les infirmiers s'occupaient de Wiley et de Mike, Ginny rassembla les enfants. Les 3 autres adultes sortirent des buissons, l'air penaud et reconnaissant. Violette mémorisa leurs visages pour se rappeler de ne plus leur faire confiance. Seuls Mike et Ginny s'étaient battus pour les protéger. Elle resta près de Wiley en tenant la main de Noah afin de le rassurer. Les autres gosses se regroupèrent comme ils le faisaient toujours, les plus petits au milieu. Shelby et Ivan discutaient, mais Violette ne les entendait pas. La personne qui s'occupait de Wiley se releva.
« Bon, petit, on va aller te chercher une civière. »
Le chef de l'escouade partit. Il ajouta.
La balle est ressortie, et elle a surtout traversé de la graisse et des muscles, mais elle lui a brisé une côte. La blessure est un peu profonde. Mieux vaut nettoyer et suturer pour éviter tout risque de péritonite.
Vous allez devoir l'opérer ?
Demanda Mike. Il était assis, le bras en bandoulière et la jambe bandée du genou à la hanche. L'infirmier haussa les épaules.
On peut dire ça comme ça. Mais pas sous anesthésie générale. Quelques piqûres, quelques agrafes, des antibiotiques, bien sûr. Et il sera comme neuf.
Wiley sanglotait. Noah et Violette lui tenaient la main, tandis que les toubibles l'installaient sur la civière.
« Je peux venir avec lui ?» demanda Noah. « C'est mon frère. »«
On ne peut pas emmener de mineurs non accompagnés, » répondit l'aide-soignant.
« Je viens moi aussi, » dit Ginny. « Les autres, rentrez à la maison avec notre cueillette. »
Mike se releva avec l'aide d'un infirmier de la JTF. Il testa son équilibre.
« Bordel, ça fait mal. Vous êtes sûr que je peux m'appuyer dessus ? »
Ça n'aggravera pas votre état, si c'est le sens de votre question. La balle a presque fait sauter un bout de muscle de votre cuisse. Nettoyez bien la plaie et vous serez remis dans 2 semaines.
Bonne nouvelle. Donc le plus inquiétant, c'est ma fracture du bras.
Elle n'est pas déplacée, déclara le toubib en faisant glisser ses paumes l'une contre l'autre. La balle a ricoché sur l'os. J'ai nettoyé la blessure. Comme pour votre jambe, prenez soin de la plaie et tout ira bien.
Je n'ai rien pour m'en occuper, fit Mike.
Ils n'avaient presque plus de médicaments chez eux.
Attendez une seconde.
L'infirmier fouilla dans son sac et en sortit une bouteille, dont il tira quelques pilules qu'il offrit à Mike.
Je ne peux rien vous donner de plus. Une par jour pendant le repas.
Le chef d'escouade regarda le groupe.
Et si on vous raccompagnait jusqu'à chez vous? Une autre équipe va s'occuper d'emmener les petits et votre chef Ten à la base.
Merci, dit Mike. S'ils peuvent rapporter une béquille, c'est pas de refus.
1 heure plus tard, ils étaient tous de retour au château. Sains et saufs, pensa Violette. Pour l'instant.